terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Permettez-moi d'abord, Madame Jean, de vous souhaiter début d'année mes voeux les meilleurs de santé, bien évidemment, puis de réussite dans tous vos projets, je dirais, personnels, professionnels, dont ce grand sommet pan-canadien des communautés noires que va abriter Montréal dans quelques jours. Et je voudrais commencer, mais peut-être par la question la plus, la plus évidente. Qu'est-ce qui vous a poussé, Madame Jean, à créer ce sommet-là?
Écoutez, je pense que d'abord, je vous remercie pour vos bons voeux et je vous les rends aussi. 2024 a été une année à bien des égards des plus éprouvantes et 2025 ça doit en être une de toutes nos forces, mobilisation et de tous nos espoirs. Pourquoi ce sommet pan-canadien des communautés noires, National Black Canadian Summit? D'abord sur une question extrêmement grave qui est celle de l'exclusion, et l'une des formes les plus récurrentes d'exclusion est le racisme. Et c'est le plus dévastateur également. Le racisme dévaste nos vies, le racisme blesse, le racisme tue. Donc, il faut absolument, je pense, pour nous qui, quand je dis nous, notamment les communautés noires, mais aussi les autochtones dans ce pays et combien d'autres qui subissons la discrimination raciale, nous puissions en tout cas faire entendre nos voix. Souvent, les gens prennent la chose à la légère en se disant, écoutez, comme si c'était une fatalité, quoi, le racisme. Non, le racisme n'est pas une fatalité. Le racisme est un crime. Le racisme est une violence. Et l'exclusion crée un déficit majeur dans notre pays. C'est-à-dire, quand vous pensez exclusion, vous pensez-le en termes de déficit de participation, déficit d'idées, de perspectives, de possibilités, de synergie, de développement et de démocratie. Un déficit immense de justice. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'en parler. Il faut absolument, et c'est ce que nous faisons avec le sommet pan-canadien des communautés noires, créer, qui est une plateforme, la première dans l'histoire du pays, que de voir des communautés noires de partout au Canada se rassembler pour parler d'une seule voix. Et nous faisons ce travail depuis, pour ce qui est de la Fondation Michael Jean, depuis 2017, avec le premier sommet qui s'est tenu à Toronto. Mmh. Et ça a été un premier test. C'est-à-dire, est-ce que ce sentiment d'urgence est partagé et voyons voir. Et tout de suite, des centaines de représentants des communautés noires sont venus de partout à travers le pays à ce rendez-vous. Ensuite, on a poursuivi en 2019 à Ottawa. Même chose, des centaines et en plus grand nombre encore sont venus pour dire il faut que ça arrête et nous devons faire corps et le dire et lancer cet appel et réfléchir aussi faire l'état des lieux du racisme et de son impact dévastateur sur nous et sur l'ensemble. Donc ensuite, arrive la pandémie, nous continuons quand même avec une série de 6 conférences virtuelles pour renforcer encore notre réflexion. Et quand je dis ça, c'est dire que quand on fait l'état des lieux du racisme, on le voit en santé, en éducation, dans le logement, mais vraiment dans la rue, notre sécurité, l'impact sur toutes nos vies, quoi, sur nos enfants, sur les générations. Donc, nous réfléchissons sur tous ces aspects et nous lançons un appel très fort pour dire voilà à quoi ça ressemble, voilà ce que c'est, voilà l'impact, et voilà pourquoi et comment ça peut changer. Donc ensuite, nous avons eu la possibilité, après cette période de confinement que nous avons connue en raison de la pandémie du COVID-19, de nous retrouver en personne. Et là, à Halifax, au 3e sommet pan-canadien des communautés noires, Eh bien là, nous étions plus de 1200, sans compter des centaines en ligne, mais en présence plus de 1200. Et ça a été saisissant, quoi. Et nous sommes ressortis de là avec un manifeste. Un manifeste.
On va revenir là-dessus.
On va en revenir là-dessus, voilà. Donc l'idée, c'est ça, en fait. Voilà. C'est le sentiment d'urgence.
D'urgence, voilà. Mais je vous entends parler et me vient tout de suite à l'idée, Madame Jean, la lutte contre le racisme, contre l'éradication de la discrimination raciale.
Enfin, pour l'éradication.
Pour l'éradication, oui. Ah, oui. Attention à l'absus. Oui, pour l'éradication. N'a pas commencé avec ni la Fondation Michael Jean, ni le sommet. Qu'est-ce que vous pensez que le sommet pan-canadien a apporté ou apporte de plus aux différentes initiatives ou actions qu'il y a eu avant?
Alors, je veux dire que d'abord, c'est vrai que c'est une longue lutte. Nous venons de loin et d'aussi loin qu'on puisse penser. Moi, je suis d'origine haïtienne et je sais ce qu'a représenté la révolution haïtienne aussi. Et nous ne l'avons pas faite que pour nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire 500 000 esclaves se révoltant, gigantesque rébellion, et s'affranchissant par eux-mêmes pour leur liberté, jusqu'à vaincre même les Napoléon Bonaparte et les forces qu'il avait déployées pour maintenir l'esclavage dans la colonie française de Saint-Domingue. Mmh. Ça, c'est l'histoire. Mmh. Mais vous voyez, ce combat remonte à très longtemps, mais ce qu'on avait vu chez nous, par exemple au Canada, c'est que, oui, nous résistions, parce que c'est un travail de résistance, chacun de notre côté, dans chaque province, chaque ville, et on peut faire la liste de tous ces moments où nous sommes descendus dans la rue, nous avons pris la parole, nous avons dit, nous avons fait. Sauf que ce qui est différent cette fois, et c'est le levier que la Fondation Michael Jean a utilisé pour le rendre possible, c'est que nous avons un leadership collectif. Mm-hmm. Nous avons une plateforme, parce que c'est exactement ce que représente le sommet, c'est une plateforme où nous pouvons venir constituer un mouvement et en très grand nombre. Parce que c'est seulement en unissant nos voix que nous allons réussir à vraiment la peser dans la balance pour forcer le changement. Et le changement, c'est quoi? Il faut absolument des politiques publiques de lutte contre le racisme. Et on a vu le gouvernement, notamment fédéral, engager des programmes destinés aux communautés noires pour justement agir sur les impacts dévastateurs du racisme. Mais cela dit, je vous assure, si nous n'avions pas fait front, si nous n'avions pas constitué justement cette espèce de... Oui, nous l'appelons un mouvement, hein. C'est pas un événement, c'est pas un moment, c'est vraiment un mouvement pour dire basta. Mm-hmm. Basta, on va vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, on va vous le dire. Vous, si vous ne comprenez pas, par exemple, ce que veut dire racisme systémique, on va vous l'expliquer et on va vous dire comment ça se passe et comment nous le vivons et comment nous le subissons. Donc, l'idée, c'est de créer une force à la fois et de vivre cette force de mobilisation et en même temps de faire un travail de sensibilisation, de compréhension. En sortant du sommet d'Halifax, par exemple, nous sommes sortis avec un document essentiel et qui parle et qui est l'expression de ce leadership collectif. Je l'appelle ainsi, nous l'appelons ainsi. C'est pas la Fondation Michael Jean, c'est pas Michael Jean, c'est un leadership collectif. C'est
nous tous ensemble. Vous insistez beaucoup sur le leadership collectif.
Oui, collectif. Donc, nous sommes sortis avec ce document qui s'appelle le Manifeste pour l'éradication de la discrimination raciale, la Déclaration d'Halifax. Et quand on peut le consulter en ligne, donc Manifeste,
sur votre site,
voilà.
Oui.
Et quand vous regardez ça, vous voyez cette espèce d'état des lieux de l'impact du racisme. Et ça rassemble les voix de toutes les générations. Hein. Ce sont à la fois les aînés qui sont là, ce sont des leaders de long cours, ce sont aussi des jeunes qui sont venus dire « voilà ce qui n'est plus possible et voilà comment ça nous atteint, voilà comment ça nous détruit, voilà pourquoi ça doit changer ». Non seulement nous avons mis ce racisme en contexte, parce que c'est finalement un héritage horrible. Quand, on ne peut pas penser le racisme aujourd'hui sans savoir d'où il vient. Et donc, nous avons fait l'état des lieux, au niveau de la justice, du logement, de la santé, de l'éducation, etc., dans le milieu du travail, dans nos rapports avec les institutions financières, etc. Et nous sommes venus aussi avec une force de proposition. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se plaindre. L'idée est de dire clairement, vigoureusement et en même temps de dire voilà comment cela pourrait changer. Voilà ce que nous, par exemple, nous faisons, parce que nous avons nos expertises à cet égard. Et je pense que quand, par exemple, des décideurs sont venus au sommet parce qu'ils se sont bien rendus compte que, oh là là, regardez combien ils sont à se rassembler, ils sont venus entendre, et il y a des choses, des données qui leur échappaient, mais des données que nous avons, nous. Donc, comment pouvez-vous penser des politiques publiques sur un sujet si vous n'avez pas les données suffisantes pour le faire? Et ils ont vu des communautés porteuses d'expertise et de données. Et je crois que c'est ce qu'il y a, par exemple, du côté du gouvernement fédéral, en quelque sorte, forcé la réflexion de leur côté.
Le manifeste est, je dirais, national. Il a une portée nationale dans le... Oui. J'entends par là Canada. Mais lorsque vous allez, comme vous l'avez fait, le présenter aux Nations Unies, quel en est l'objectif, Madame Jean?
Pour les Nations Unies, c'est important de porter cela à leur attention parce que nous nous sommes beaucoup appuyés sur la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par l'ONU. Et dans la première décennie, parce qu'il y en a une seconde qui commence cette année, en 2025, la première décennie avait pour thème reconnaissance, justice, développement. Reconnaissance, c'est-à-dire de quoi parlons-nous ? Quand on parle de discrimination raciale, de quoi s'agit-il donc? L'état des lieux. Quand on parle de son impact dévastateur, c'est d'en prendre la pleine mesure et de reconnaître aussi dans l'histoire d'où nous venons. Donc ça, c'était très important. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de justice. Donc on a fait ce lien très important entre reconnaissance et justice qui sont des corollaires essentiels pour le développement, c'est-à-dire faire société ensemble, avancer des politiques publiques. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes allés présenter aux Nations Unies, à l'instance permanente de l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine, lors d'un grand rendez-vous et à New York, et on a dit, bon voilà ce qu'au Canada nous avons accompli. Et ce qui a été formidable, c'est d'entendre de l'ONU la chose suivante. De tous les États membres des Nations Unies, le Canada est le seul où on sent vraiment qu'une espèce de mobilisation qui vient du terrain pour remonter jusqu'aux décideurs. Et forcément, peser dans la balance et faire suffisamment pression sur le ton le plus urgent possible pour qu'ils agissent en disant « cela doit être l'affaire de tout le monde ». Le racisme ne peut pas être que l'affaire de ceux qui subissent cette violence. Le racisme doit être l'affaire de tout le monde et c'est une question de responsabilité partagée.
Alors, ce manifeste-là, il s'appuie sur trois piliers, connaissance, justice, puis là, il y a le troisième, qui est le développement. Et j'aime bien parce que le premier titre, c'est « Développement pour que justice soit faite ». J'aimerais vous entendre là-dessus, sur ce pilier-là.
Alors, ce pilier est important parce que, évidemment, en pensant toujours que s'il n'y a pas reconnaissance, donc même de notre présence, de notre valeur, de ce que nous avons à offrir, cela crée une injustice, c'est-à-dire c'est l'injustice de l'exclusion. Et quand il y a exclusion, c'est un déficit pour l'ensemble. Et c'est là-dessus que nous insistons, c'est-à-dire que le déficit pour l'ensemble est notamment un déficit de développement. Plus vous excluez des forces vives qui ont beaucoup à offrir au niveau du travail, au niveau de la création, au niveau de la production, au niveau de l'innovation, des idées, des capacités de faire, des compétences, plus vous créez un déficit pour le développement. Or, l'exclusion, et notamment le racisme, crée ce déficit. Le coût social de la haine, le coût social, parce que j'aime bien nommer les choses pour ce qu'elles sont, le coût social du racisme et de la discrimination raciale et de l'exclusion est énorme, il est énorme. Et il pèse d'abord, et on le sent, sur le plan du développement. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux décideurs. C'est-à-dire que quand dans une entreprise, vous sous-estimez ce que les communautés noires et d'autres, hein, parce que nous pensons beaucoup à cette alliance fondamentale qui doit exister aussi avec les peuples autochtones à cet égard, parce que nous partageons cette même condition, et c'est historique. Donc nous disons, mais plus vous nous excluez, plus finalement vous vous privez de tout ce que nous avons à offrir, vous privez le pays de cet apport qui est fondamental, parce que l'injustice est... Et une, je dirais, comment je pourrais dire, c'est un aveuglement, c'est un non-sens, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas justifiable. Le meilleur développement humain, économique, durable que l'on puisse penser, c'est dès lors que l'on inclut à part entière ceux et celles qui sont là et qui ont tellement à offrir.
Je voudrais revenir maintenant sur des questions pratiques, notamment liées à ce sommet-là. Le premier, vous l'avez dit, c'est 2017 à Toronto, donc 6 ans après 2022, vous sortez avec un manifeste qui est, je dirais quoi, l'aboutissement un peu de toutes les réflexions, de tous les travaux. Dès le 31 janvier, là, vous venez à Montréal. C'est quoi l'étape Montréal? En quoi c'est important? Qu'est-ce qu'on fait?
C'est-à-dire que ce manifeste-là, au fait, est un point de départ, si vous voulez. C'est-à-dire que le manifeste rassemble une réflexion qui a été importante et qu'on a portée dès 2017. Et ce qu'on a trouvé, ce qu'on trouve dans le manifeste, c'est déjà l'expression d'un leadership collectif. Où est-ce que c'est pas une personne qui parle, c'est pas un lieu qui parle, c'est nous tous. C'est nous tous et c'est nous toutes, et en très grand nombre, et avec force, vigoureusement. Et de manière, si vous regardez le manifeste, qui est bien aussi, c'est que c'est un document de référence et c'est un outil. C'est de donner les arguments qui permettent finalement de renforcer nos actions et nos prises de position.
Vous venez d'utiliser deux mots sur lesquels je voudrais rebondir. Vous avez dit le manifeste, c'est aussi parce qu'il va renforcer les actions, les prises de position. Madame Jean, je cherche des leviers de contrainte, tellement cette lutte-là, elle est longue, elle est pénible, elle est difficile. Maintenant, il y a un manifeste comme celui-là. Est-ce qu'il peut aussi servir de levier de contrainte vis-à-vis des décideurs, ou on doit toujours être dans la négociation?
C'est-à-dire que c'est un long chemin, vous l'avez dit, et à Montréal, ce qu'on va faire, c'est que partant du manifeste, on va examiner aussi, je dirais, une espèce de plan d'action, de nos actions. On va parler de nos actions. Et nous allons toucher exactement à ce que vous dites. La deuxième décennie, plutôt que reconnaissance, parle de consideration. Voilà. Donc, consideration. Ouais. Et en français, on la traduit mieux encore. Donc, consideration, justice and development. Et dès lors que vous dites prise en compte, considération, vous entrez aussi dans un autre axe d'action. C'est-à-dire, notamment, une réflexion sur la réparation. Comment est-ce qu'on répare? Comment est-ce qu'on répare les torts faits? Évidemment, en apportant des mesures. Ce n'est pas toujours un montant. Ce n'est pas toujours, bon, voilà, parce qu'il y a aussi des revendications qui sont de cet ordre-là. On exige réparation pour les torts faits. Et bien sûr, quand on exige réparation, qu'est-ce qu'on a? On a au départ la reconnaissance. Reconnaissance des torts faits et urgence, responsabilité de réparer. Réparer, c'est aussi mettre de l'avant un ensemble de mesures dans toutes ces circonstances où le racisme, l'exclusion ont un impact dévastateur pour les communautés, les personnes qui en sont les victimes. Ce n'est pas normal, je vais vous dire une chose, rien que sur la question du logement, que notamment les communautés noires soient aussi soient aussi affligés et accablés. Il y a des gens qui, en raison du racisme, ne trouvant pas de logement, se retrouvent presque en itinérance, en allant d'un lieu à l'autre, et peinent davantage à se trouver quelque chose de fondamental, qui est un logement, un lieu où vivre. Et il y a aussi que le racisme crée également de la pauvreté, de la précarité, cette injustice, je veux dire, criante. Il faut réparer ça. Il faut le réparer parce qu'il faut agir sur ces situations. Donc, les gens qui sont sous-payés, vraiment sur... écoutez, il y a des témoignages qui sont déchirants, y compris au sein de la fonction publique. Des citoyens qui travaillent dans des entreprises ou dans le secteur public, dans des institutions depuis des années et qui n'ont pas de considération, c'est-à-dire pas d'augmentation, pas de promotion, et qui envoient d'autres nouvellement arrivés avec moins de compétences qu'eux, passer vite, dire la ligne et se voir féliciter, reconnaître et avance. Ça, ce n'est pas acceptable. Vous savez, quand dans ce mouvement, les gens disent « rien à notre sujet sans nous », c'est ça que ça veut dire. Voilà, on ne peut pas penser la chose sans nous. Nous sommes incontournables. Mmh. Nous sommes essentiels pour bien nommer et pour dire ce qui doit changer et comment ça peut changer.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.
C'est donc ça, c'est un peu de tout ça qui va être discuté, présenté donc, du 31 janvier au 2 février, où il y a ce sera au Palais des Congrès de Montréal, où il y a une grande place qui est faite à la jeunesse.
Oui, parce qu'il faut arrêter de dire que les jeunes sont notre avenir. Mmh. Il faut arrêter là. Parce que la vraie vérité, c'est qu'ils ont déjà un leadership. Mmh. Et que c'est ici, maintenant, qu'il faut aussi voir en eux des catalyseurs et des acteurs de changement. Et vous savez quoi ? Dans la parole des jeunes, il y a quelque chose de très direct, quelque chose de très frontal, mm-hmm. quelque chose de très courageux. C'est-à-dire qu'ils ne tournent pas autour du pot. Hein. Non, pas du tout. Mm-hmm. Et vous savez, ce sont les jeunes qui ont été les premiers à dire « Voilà comment cela atteint notre santé mentale. Mm-hmm. » Ils ont été les premiers. Moi, je me souviens... Écoutez, je vous dis ça, j'ai des frissons, parce que je me souviens... du jour où, lors du deuxième sommet pan-canadien des communautés noires, nous étions à Ottawa, c'était en 2019, et nous sommes allés à la colline parlementaire, nous sommes allés rencontrer les ministres. Et dans les délégations qui allaient les rencontrer, il y avait aussi beaucoup de jeunes. Et avec le ministre de la Justice, je me souviens qu'une jeune fille qui était là et qui expliquait le travail qu'elle et d'autres jeunes de son âge menaient dans son quartier pour un programme, vous savez, après l'école, hein, avec des jeunes pour les aider dans leurs travaux scolaires et tout ça, et puis aussi les entendre sur leurs difficultés et tout. Et elle a dit, parce que, vous savez, le racisme est un stress permanent. Mmh. Le racisme nous empêche de respirer. Le racisme est un handicap lourd. C'est un poids. Et ça a un impact incroyable sur notre santé mentale. Et le ministre de la Justice, qui prenait des notes, a levé les yeux et il a dit « J'avais jamais pensé à ça. » Vous voyez ? Donc c'est pour ça que nos mots comptent et la façon dont on le dit compte. Le manifeste n'est pas dans un ton ni une écriture institutionnelle. Mmh. Il est plus proche de la façon que nous avons de dire et d'expliquer et de nous exprimer. Et je vous l'assure, quel moment d'humilité chez le ministre de la Justice qui n'avait jamais fait ce lien.
Alors, sur le plan pratique, le sommet, c'est 26 sessions ateliers, 5 séances plénières. Et notamment pour les 18-30 ans, je parle d'informations pratiques, là, les 18-30 ans, l'entrée est gratuite. Hein?
C'est gratuit, oui. Parce que il faut investir dans la jeunesse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont eux hein, qui sont là pour la suite, mais ils sont déjà là, maintenant, ici, maintenant. Et c'est, ils sont brillants, quoi. Ils sont tellement brillants. C'est toujours impressionnant. Vous leur donnez l'espace et ils le prennent. C'est assez formidable. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, voilà, pour les 30 ans et moins, c'est gratuit.
Pour terminer, Madame Jean, qu'est-ce que... Je dirais quoi en un, deux mots, quelles seraient vos attentes sur ce, ce sommet de Montréal?
D'une part, qu'on assume pleinement ce qui est un fait, c'est que nous sommes un mouvement. Et voilà, donc, et on arrive à Montréal et... Donc, les communautés noires de Montréal sont là aussi pour faire entendre la dimension si singulière du combat. Oui, c'est un combat, du combat qu'elles mènent. Et mettre ça en résonance avec ce qui se vit ailleurs à travers le pays. C'est infini comme possibilité. Vous savez, moi, j'ai été invitée l'année dernière, en février, pour le mois de l'histoire des Noirs, au Nunavut.
Ah oui?
Croyez-le ou non, au Nunavut. Alors, je regarde ça et je me dis, tiens, il y a aussi une communauté noire dans l'Arctique. Et qui travaille aux côtés des Inuits. Et quand je suis arrivée là, à Iqaluit, parce qu'évidemment que oui, j'ai répondu à l'appel, et que j'ai vu cette alliance extraordinaire entre Inuits et Noirs dans l'Arctique, et partant d'une même humanité, d'une même volonté d'unir leurs efforts sur des défis considérables, je me suis dit, bon sang, que c'est beau, que c'est magnifique. Et j'ai appris des choses. J'ai appris, par exemple, que la première personne non inuite que les peuples du Nunavut ont rencontrée était un explorateur noir. Et ils ont fait une exposition à ce sujet. Et donc, nous avons tellement encore à apprendre sur nos liens qui remontent à des centenaires.
Tout à fait.
Et ça, c'est ça la beauté de la chose. C'est de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer et se dire, OK, sur ce même problème, nous allons agir ensemble. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que après Montréal, parce qu'il y a toujours un après.
Bien sûr.
Le sommet, c'est une marche qui ne s'arrête pas. Il y a toujours un après. Eh bien, c'est le gouvernement même du Manitoba qui nous invite. C'est la première fois que c'est un gouvernement qui nous invite. Pourquoi? Le premier ministre, Wab Kinyou, est autochtone. Son vice-premier ministre est d'ascendance africaine. Il est noir. Son ministre du développement et de l'économie est noir. Quand vous êtes au Manitoba et que vous regardez le profil des gens qui sont là au gouvernement, eh bien, vous avez des franco-manitobains, vous avez des autochtones qui sont ministres, vous avez des noirs qui sont ministres, vous avez... Mais c'est saisissant, hein. C'est vraiment saisissant. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et ces gens qui étaient marginalisés autrefois sont maintenant à l'instance la plus haute de la gouvernance, l'instance décisionnelle la plus haute, en train de vraiment dessiner, mettre en place, ils ont commencé à le faire tout de suite, des politiques publiques sur la foi aussi de ce qu'ils ont eux-mêmes connu et de leur expérience, parce qu'ils étaient autrefois marginalisés. Ça, c'est la beauté de la chose. C'est vraiment la beauté de la chose. Et donc, c'est formidable parce que prochain sommet à Winnipeg, et maintenant, ce sont des villes à travers le Canada qui le demandent. Qui demandent le sommet. Qu'ils ont compris qu'on touchait à quelque chose qui était dans l'intérêt général.
Vous avez beaucoup parlé de leadership collectif. Permettez-moi de saluer, oui, dans ce leadership collectif, permettez-moi de saluer aussi votre leadership à vous, Madame Jean, parce que au vu de votre parcours professionnel, vous auriez pu aujourd'hui, vous lancer dans quelque chose de plus personnel, mais vous avez décidé d'embrasser cette cause-là. Permettez-moi de vous remercier aussi pour ce leadership individuel qui a peut-être aujourd'hui ou sûrement entraîné ce leadership collectif-là qui mène
c'est le, gentil de votre part.
Qui mène le sommet là où il est en train de ben voilà,
c'est que j'ai vu ce pays. Ouais, j'ai vu ce pays. Je l'ai traversé. Et alors que j'étais gouverneur général du Canada, et ce qui m'a intéressé, et c'était mon engagement, je l'avais dit dès le départ, ça a été de voir de quel ordre sont les réalités dans ce pays. D'aller là où l'institution n'allait jamais, d'aller là où les politiciens ne vont pas, et d'être à l'écoute, et de rassembler les gens, et de prendre le temps, et de comprendre, et de créer aussi des passerelles. Et ça a été formidable. Et j'inclus mon mari dans tout ça, parce que Jean-Daniel, lui-même, bon voilà, cinéaste, à l'œil averti et attentif, parce que dans tous ses films, il l'a toujours montré, c'est-à-dire faire en sorte que des voix soient entendues, écouter la parole profonde, la parole sensible, mettre le doigt là où parfois ça fait mal, pour pouvoir rendre l'invisible visible. Ça, d'ailleurs, c'est l'un de nos programmes. On l'appelle le quatrième mur, rendre l'invisible visible.
C'est très beau, ça.
Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire là où est l'exclusion, faire en sorte qu'on le voit et qu'on passe pas juste devant en faisant comme si. Non. Donc c'est partant de cette sensibilité-là que, entre autres, beaucoup d'organisations de jeunes, et ce que je disais toujours aux équipes de l'institution du gouverneur général, et moi comme gouverneur général, je disais, vous me dites, on n'a jamais fait ça, mais d'abord on va le faire, et vous en serez fiers. Et d'autre part, je ne veux pas amener les gens à moi. Je veux aller là où ils sont. Et c'est ce que j'ai fait avec les jeunes. Je n'ai pas amené les jeunes dans des... Vous savez, bon, voilà, vous allez rencontrer la gouverneure générale, on ouvre un espace, venez, blah, blah. Non, j'allais là où ils sont. Ils étaient saisis, mais c'est moi. Ça veut dire, dans leurs petits locaux, nous regardions comment ils travaillaient. Et nous avons été d'une écoute très, très attentive. Et à ce moment-là, avec eux, on a ouvert des espaces pour que leur voix soit entendue. Et avec aussi le levier que pouvait représenter ma position, mon statut, j'allais vers des institutions culturelles et je leur disais « ouvrez l'espace ». Ouvrez l'espace parce que les jeunes en ont besoin, ils le réclament, ils ont besoin d'être entendus. Et on a fait ça. Et à la fin du mandat, après avoir travaillé avec à peu près a été à la rencontre à près de 200 organisations de jeunes à travers le pays. Ils ont dit, écoutez, on n'a jamais eu des gens aussi attentifs et à l'écoute que vous. Et si vous dédiez votre fondation à ce travail que nous avons su faire ensemble.
Mais Madame Jean, je vous remercie de ce moment que vous nous avez accordé. Et puis, je vous dis juste rendez-vous au sommet. Je rappelle encore, 31 janvier, 2 février, c'est dans quelques jours. Puis pour toutes les informations, on va sur le site du sommet pan-canadien.
Voilà, sommet pan-canadien des communautés noires. Important. Et puis c'est aussi en anglais, c'est National Black Canadian Summit. Et là, on peut s'inscrire. Il faut faire vite parce que les billets, franchement, là... Les inscriptions s'envolent et c'est tout à fait abordable, ça c'était important, et c'est gratuit pour les 30 ans et moins. Donc et j'insiste beaucoup pour que les jeunes s'inscrivent en très grand nombre parce que franchement, là, leur voix est tellement inspirante et leur énergie est tellement impressionnante. Ouais.
Merci à vous et puis rendez-vous au sommet.
Merci beaucoup, merci. À très vite.
À bientôt. Mon nom est Cyril Ekwala.